Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur, sa paix, soit avec chacun de vous. Le thème du message de ce matin est justement sur la confiance en Dieu. Et notre frère nous a conduit ce matin, durant ce temps de louange, dans ce sujet-là aussi, qu'il est important de se confier en Dieu au lieu de se confier en l'homme. Et ce passage de Jérémie, chapitre 17, qui nous a lu, dit cela également. Et c'est vrai que nous sommes, depuis plus d'un an et demi, dans un temps difficile où le monde connaît une crise sanitaire difficile, ce Covid-19, qui a fait près de 5 millions de décès dans le monde et dont plus de 118 000 personnes en France. Et nous voyons que, merci Seigneur, les laboratoires pharmaceutiques, on peut trouver des vaccins qui permettent de limiter ce qu'ils disent, les formes graves de la maladie et donc aussi de limiter le nombre de décès. Et ce qu'on constate, c'est que malgré ces résultats qui montrent que grâce à la vaccination, il y a cette diminution d'hospitalisation et aussi diminution de décès, nous constatons que beaucoup de nos concitoyens s'opposent à la vaccination avec des raisons légitime que, c'est pas à moi d'en parler. Mais voilà, c'est le constat. Et l'une des raisons qui explique ce refus, c'est notamment le manque de confiance de certains vis-à-vis des dirigeants politiques et économiques ou pharmaceutiques. Voilà. Donc, il y a une manque de confiance. Donc, les gens, d'après les arguments qu'ils donnent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, etc., etc. Donc, il n'y a pas la confiance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, il y a eu cette crise qui n'était pas une crise sanitaire, mais c'était une crise financière. Et c'est la crise qu'on appelait la crise des subprimes, due aux prêts immobiliers à risque que les emprunteurs américains n'arrivait plus au fait à rembourser. Et pendant quelques temps, 2008 à 2010, il y a eu donc cette crise très difficile qui mettait à mal au fait tout le système économique financier des différents pays. Et pour éviter l'effondrement de ces établissements financiers, je ne sais pas si vous vous rappelez, non seulement éviter l'effondrement de ces établissements financiers, la disparition de beaucoup d'entreprises, parce que ce sont les banques qui financent les entreprises, mais aussi par voie de conséquence, limiter au maximum les pertes d'emplois, il a fallu que les États, les gouvernements, se portent garants et renflouent les caisses des banques, etc. Et ce système économique, basé donc aussi sur la consommation des ménages, dépend aussi grandement de la confiance qui anime la population. Confiance en l'avenir, confiance en la capacité des dirigeants à prendre les bonnes décisions pour permettre à chacun d'avoir une vie paisible afin aussi de jouir de toutes les bonnes choses que peut offrir le monde. Donc, on est dans un monde où le système est basé, le système économique est basé sur la confiance. La confiance dont ils disent, la confiance des ménages. Et la croissance d'un pays, je ne vous fais pas un cours d'économie, mais la croissance d'un pays, ce qu'on appelle produit intérieur brut, dépend aussi donc de la confiance des consommateurs, la confiance des investisseurs, la confiance des financiers. Tout est question de confiance. Et la question qu'on va se poser, c'est malheureusement, on peut perdre beaucoup. On peut perdre beaucoup si l'on ne place pas sa confiance au bon endroit. On peut faire confiance à des personnes dont on espère, mais sans aucune assurance ferme, que ces personnes honoreront leurs dettes. On peut faire confiance tout en sachant par avance que ces personnes auront du mal à rembourser leur emprunt, par exemple. Et c'est ça, la crise des subprimes, c'était ça. C'est-à-dire que les banques ont fait confiance à des personnes dont ils savaient qu'ils auraient des mal à rembourser. Donc on peut aussi faire confiance à un vendeur indélicat qui abuserait de notre naïveté alors que l'on pense avoir fait une bonne affaire. On se rencontre bien après de la supercherie. Mais c'est trop tard. Voilà, donc notre confiance peut être abusée. Et pour un bon fonctionnement, il faut qu'il y ait la confiance. Donc ma question, et je pense que vous le voyez, c'est, et on nous l'a dit aussi ce matin, mais en qui ou en quoi avez-vous placé votre confiance? Est-ce en des valeurs fictives, passagères, ou est-ce en une valeur sûre? Il est important de se poser cette question, en qui ai-je placé ma confiance? Ou en quoi? Les valeurs fictives ou passagères pourraient être les idoles, ce que la Bible appelle les idoles, mais ça peut être ce qu'on voit à la télé, les chanteurs, les sportifs, ça peut être même pour certains, la religion aussi. Mais ça va et ça vient. Ça peut être les richesses. La Bible dit que celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Ceux qui se confient dans les idoles, ce qu'on appelle les idoles, c'est voilà, la chose dit dans notre cœur prend la place qui revient à Dieu. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a la première place dans ma vie? En quoi ai-je mis toute ma confiance? Et ça peut être une idole. Et ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes nos dieux, eh bien, ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, c'est ce que dit Ésaïe chapitre 42. Et on peut se confier en l'homme. Et dans Ésaïe chapitre 2, verset 22, il dit « Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» Et j'avais prévu de lire ce texte que notre frère nous a lu ce matin dans Jérémie chapitre 17, justement, qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et mais il dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Alors, au lieu de mettre sa confiance dans des valeurs fictives, passagères, il faut mettre sa confiance dans les valeurs sûres. Et Dieu est la valeur sûre. Nous pouvons affirmer que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est la valeur sûre sur laquelle l'homme peut s'appuyer et mettre toute sa confiance. On peut lire quelques passages dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, nous lisons à partir du verset 27 jusqu'à la fin. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27, il dit « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, on peut se confier en l'Éternel. C'est lui l'Éternel, le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre et qui ne se fatigue point. Donc, bien des hommes et des femmes ont mis leur confiance en cette valeur sûre, en Dieu. Et aucun n'a été confus. Et parmi ces hommes, il y a un que j'aimerais que nous puissions voir ensemble. C'est l'histoire d'Abraham. Il est appelé à juste titre le père de la foi par l'apôtre Paul, parce que Abraham a fait le choix de placer sa confiance en Dieu. On peut lire Romains chapitre 4. Alors, à plusieurs reprises, les auteurs du Nouveau Testament parlent d'Abraham, parlent de la foi d'Abraham et nous exhortent à imiter sa foi. Et c'est là l'encouragement aussi pour nous ce matin, avoir confiance en Dieu, cette valeur sûre, comme Abraham l'a fait alors qu'il était, il vivait dans son pays, certainement idolâtre, et lorsque Dieu l'a appelé, il a obéi. Dans Romains chapitre 4, versets 13 à 25, alors on aurait pu lire au début, hein, mais c'est pour gagner un peu de temps, mais il faudrait lire tout le chapitre en fait. Alors verset 13, il dit « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. » C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père de grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. On peut prendre aussi Galates. Galates chapitre 3. Alors, Galates chapitre 3 à partir du verset 6. Alors, il dit, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, nous voulons imiter. Nous voulons imiter la foi de cet homme, Abraham. Et pour nous qui avons déjà mis notre confiance en Dieu, mis notre confiance en Jésus-Christ, nous avons fait ce pas de foi comme Abraham l'a fait. Et nous sommes donc les fils d'Abraham, il est dit. Maintenant, la Bible nous dit que donc, nous sommes héritiers en Jésus-Christ des promesses faites à Abraham. Et comme lui, nous sommes encouragés donc à mettre notre foi en notre Dieu. Et vous qui n'avez pas encore mis votre confiance en lui, aujourd'hui, entendez cette bonne nouvelle que le Seigneur veut vous adresser. Alors, l'histoire d'Abraham commence dans Genèse. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, à partir du verset 27. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 11 à partir de, donc du verset 26 même, et nous allons lire jusqu'au chapitre 12, verset 9. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakhor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nakhor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils y arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham partit, bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Jusque-là. Donc, voyons ensemble comment Abraham a mis donc sa foi dans le Dieu trois fois saint. Il a placé sa confiance en l'Éternel, le seul vrai Dieu, alors qu'il vivait en Mésopotamie, donc dans la ville d'Ur en Chaldée. selon Actes chapitre 7, versets 2 à 5. Il était certainement comme son père, Térakh, un idolâtre qui servait d'autres dieux selon Josué chapitre 24, verset 2. Abraham a mis sa foi en Dieu parce que celui-ci lui annonça une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi » et ça on l'a lu au verset 3 du chapitre 12. Et c'est ce que l'apôtre Paul a confirmé dans Galates chapitre 3 verset 8 que nous avons lu. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Visiblement, après avoir reçu l'appel à partir de son pays, Abraham, qui donc il s'appelait Abraham et après est devenu Abraham, il est parti d'Ur en Chaldée, donc en Babylonie, avec son père Térakh. Il est parti avec sa femme Sarai et son neveu Lot. Il est parti pour Canaan. Mais ce qui s'est passé, c'est que Abraham est parti et il s'est arrêté à Charan, 900 kilomètres au nord, alors qu'il devait redescendre pour aller en Canaan. Et ce n'est qu'après la mort de son père Térakh que visiblement Dieu va lui renouveler cet appel et il va partir avec sa femme et Lot et avec tout ce qu'il avait pour aller dans le pays que le Seigneur lui montrerait. Et là, c'est là la foi d'Abraham. Déjà, il est parti d'Ur en Chaldée parce que Dieu lui a demandé de partir, mais il s'est arrêté à Charan. Les raisons, nous ne savons pas pourquoi. Et il a fallu que Dieu renouvelle son appel et Abraham quitte Charan pour descendre vers Canaan jusqu'au lieu où Dieu va lui dire « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Donc, c'est l'annonce de cette bonne nouvelle. Donc, quand il lui dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi », c'est cette annonce, cette bonne nouvelle qui a suscité la foi en Abraham, qui a suscité la foi en lui et qui l'a poussé à agir et qui l'a poussé à obéir. La foi implique l'obéissance. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ selon Romains chapitre 10, verset 7. Alors que dit la parole de Christ? Alors, on peut citer beaucoup de versets. Alors, j'en ai retenu deux, quelques passages. Que dit la parole de Christ? La parole de Christ, ou la parole de Dieu nous dit, par exemple, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça, on le trouve dans Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Dans Romains, il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement. Quand il dit « je n'ai point honte de l'évangile », il faut savoir l'évangile, la définition c'est la bonne nouvelle, c'est le même mot. Donc je n'ai pas honte de cette bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc voilà ce que dit la parole. On pouvait en citer bien d'autres. Et cette parole, la parole de Christ, nous dit que si on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on a la vie éternelle. L'évangile, donc la bonne nouvelle que vous entendez, c'est la puissance de Dieu pour votre salut. Et que si vous croyez en l'évangile, en cette bonne nouvelle, vous avez la vie éternelle. Alors, est-ce que vous avez placé votre confiance en Jésus, comme il est dit? Vous avez entendu cette bonne nouvelle? Est-ce que vous allez rester là sans rien faire? Ou est-ce que, comme Abraham, vous allez vous mettre en action et dire, voilà, je vais obéir et je vais faire ce que Dieu me demande. Je vais y croire. Alors, lisons 1 Pierre, chapitre 2. Versets 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc là, il s'adresse à ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quand on met sa foi en Jésus-Christ, on devient cette pierre vivante. Et Jésus, qui est cette pierre principale, il dit, une pierre angulaire, choisie et précieuse, il dit, celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. Alors la question c'est, dans quel camp êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans le camp des incrédules ou est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui croient? Dans Actes chapitre 7, versets 2 à 4, donc c'est Étienne qui parle. Il répond en racontant donc l'histoire d'Israël. Il dit que Abraham a quitté son pays et sa famille et Dieu lui a dit donc va dans le pays que je te montrerai. Donc il était selon Actes chapitre 7 versets 2 à 4, cet appel, c'est depuis Ur, en Chaldée, que Abraham l'a reçu. Et c'est pour ça qu'il est parti, avec son père et les autres. Et Abraham, lui, donc comme je le disais, il est parti avec son père, Lot, sa femme, et il s'est établi à Charan. Il s'est arrêté là. Il avait fait un premier pas, je veux dire, d'obéissance. Il est parti, mais il s'est arrêté. Alors, pourquoi il s'est arrêté, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas Dieu qui lui a dit « arrête-toi là ». Non, il s'est arrêté et il a repris sa vie. Il avait déjà fait un premier pas. Et alors que Dieu lui a dit « va dans le pays que je te montrerai ». Et il s'est arrêté à Charan. Visiblement, ce n'était pas le pays que Dieu lui avait montré. Et ça m'a fait réfléchir pour dire que parfois, il y a des personnes qui entendent cette bonne nouvelle et qui viennent à l'église. Et merci Seigneur, et c'est déjà très bien. C'est déjà comme Abraham faire un premier pas. On entend l'appel où on sait qu'on est pécheur, etc., on va venir, on va aller écouter la parole de Dieu, Et puis après, on va s'établir. Un peu comme Abraham qui part d'Ur en Chaldée. Il arrive à Charan, mais Dieu ne lui avait pas dit de s'arrêter. Mais là, il s'est arrêté jusqu'à ce que son père meure, etc. Mais on ne sait pas pourquoi, mais il était là. Il a fallu qu'il entende encore cet appel de Dieu pour lui dire, va, va-t'en de ton pays, jusque là où je te montrerai, dans le pays que je te montrerai. Et Abraham a fait ce pas encore. Il est parti. Il a mis sa foi en Dieu. Et il est descendu, il arrive à Canaan, mais il avance. Et c'est là, Dieu lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Arrête-toi là. C'est ce pays pour lequel je t'ai demandé de partir. Et je donnerai ce pays à ta postérité. Et Canaan représente, donc c'est le pays de la promesse. Canaan représente le lieu où le peuple a trouvé, par la suite, a trouvé le repos. Et lorsque Dieu, 430 ans plus tard, va libérer ce peuple de l'esclavage d'Égypte, ils vont passer la mer Rouge et ils vont rester 40 jours dans le désert. Moïse va envoyer les espions dans ce pays de Canaan, parce que lorsque Dieu dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité, pour l'instant, c'est pas encore Abraham, hein. C'est à venir. Moïse envoie ses espions en Canaan, ils reviennent, ah oui, il y a des géants, etc. Ils ont eu peur, retournons en Égypte. Et il n'y a eu que Josué et Caleb qui disent, mais non, l'Éternel est avec nous, nous allons prendre possession du pays. Et à cause de cela, à cause de leur incrédulité encore, ils sont tous morts, sauf Josué et Caleb. Tous ceux qui ont murmuré contre Moïse, contre Dieu, alors ils sont morts, et c'est leurs enfants qui ont pris possession du pays. Donc Canaan, c'est ce lieu de repos. Et Jésus est ce Canaan. Jésus est celui en qui on trouve le repos, le vrai repos. Donc, tant que le peuple n'était pas entré dans ce pays, le peuple n'avait pas vraiment trouvé ce repos. Et Abraham, lui, il est arrivé à Charan, alors que Dieu attendait de lui qu'il aille jusqu'à Canaan, qu'il entre dans ce pays, qu'il prenne possession de ce pays, ça sera à toi. Moi, je vous dis que tant que vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ pour votre salut, vous êtes encore comme Abraham, vous êtes encore à Charan. Vous avez fait une partie du chemin, mais vous n'avez pas tout fait. Vous n'êtes pas encore entré dans le pays promis. Vous n'êtes pas encore entré dans le Canaan. Vous n'êtes pas encore mis votre foi en Jésus-Christ pour trouver le repos dont vous avez besoin. Alors la question c'est, oui, vous êtes arrivé jusqu'à Charan. Alors est-ce que vous allez rester à Charan ou est-ce que vous allez obéir, mettre votre confiance en Dieu? Oui, je vais repartir pour arriver là où le Seigneur veut que j'aille, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7. Alors, on va lire, il faudrait lire à partir du chapitre 3, verset 7. Ça reprend un peu ce que j'ai déjà dit. Mais on va lire le chapitre 4, verset 1. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela puisque ses œuvres ont été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et là, il parle de la puissance de la parole qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors, laissez la parole de Dieu agir en vous et ne résistez pas à l'appel de notre Dieu qui vous dit, voilà, empressez-vous d'entrer dans ce repos. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Donc, c'est en Jésus-Christ, en lui seul, que vous pouvez trouver le repos pour votre âme. Alors, ne restez pas à Charan. Vous avez fait un pas, mais ne restez pas là. Ce n'est pas là que le Seigneur veut que vous restiez. Il veut que vous alliez jusqu'à Canaan. Il veut que vous alliez jusqu'à Jésus-Christ. Et pour nous, frères et sœurs, qui avons mis notre foi en Jésus, qui ne sommes pas restés à Charan, mais qui sommes arrivés à Canaan, nous avons la responsabilité d'annoncer cette bonne nouvelle. Là, il est vraiment question de bonne nouvelle. Nous avons cette responsabilité d'annoncer cette bonne nouvelle. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Lorsque nous avons nous-mêmes entendu cette bonne nouvelle, nous avons mis placé notre confiance en Jésus-Christ. Nous avons reçu l'Esprit qui avait été promis. Et maintenant, il dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Notre devoir, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle à ceux et celles qui nous entourent. Et lisons ce texte de Romains chapitre 10. On lit à partir du verset 13. Il dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su ? Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Le Seigneur tend encore sa main aujourd'hui. Est-ce que vous allez être comme ces Israélites, ce peuple rebelle et contredisant, ou est-ce que vous allez faire comme Abraham, mettre votre foi en la parole de Dieu et reconnaître que vous avez besoin de Jésus-Christ. Donc nous, en tant que chrétiens, nous avons pour mission, et c'est là le mandat que le Seigneur nous a laissé, d'annoncer cette bonne nouvelle à ceux et celles qui nous entourent. Quels que soient les moyens, nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour faire connaître cette bonne nouvelle. Donc que le Seigneur vous bénisse. Celui qui met sa confiance en Dieu ne sera pas confus. Donc, merci Seigneur pour le salut qu'il nous a apporté en Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, alors aujourd'hui c'est le jour du salut. Ne laissez pas passer cette occasion, puisque le demain ne vous appartient pas. Voilà, que le Seigneur nous garde. J'ai pensé à un chant... « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus.